Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, qu'est-ce qui pourrait sauver la gauche ? La gauche a perdu la bataille des valeurs. C'est une phrase qui commence le livre d'Emmanuel Morel, ce député européen qui, il y a un an, lâchait en pleine université d'été du Parti Socialiste. On n'a même plus de langue commune. Aujourd'hui, ce qui fait l'actualité de ce Parti Socialiste, c'est l'absence et le morcellement. Absence d'université d'été et le morcellement des rendez-vous politiques 2017. Deux points. La gauche de l'entre-soi, titré hier le journaliste de Libération, Lilian Alemagna. Article qui recense les 14 rassemblements, les rencontres et les réunions qui ont lieu en cette fin de mois d'août donnée par les représentants de la gauche. Cette gauche qui peut mourir, tel que Manuel Valls le déclarait il y a 2 ans lors du Conseil national. Nous sentons bien, disait-il, que nous sommes arrivés au bout de quelque chose, au bout peut-être même d'un cycle historique pour notre parti. La gauche n'a jamais été aussi faible dans l'histoire de la Ve République, disait-il déjà, avec cette envie d'en finir, selon ses termes, avec cette gauche passéiste. Se réclamer de ce courant, écrit l'historien Roger Martelly dans le journal L'Humanité, c'est la manière la plus large en politique de dire que l'on est du côté de l'égalité et de la liberté. Mais de quelle gauche parlait Manuel Valls il y a 2 ans, ce Premier ministre d'avant les attentats, d'avant l'état d'urgence? De quelle gauche parle-t-on aujourd'hui, après 4 ans et demi d'une présidence socialiste pour le moins mouvementée sur tous les plans, économique, social, sécuritaire, et à 9 mois d'une élection présidentielle où les divisions multiples ouvrent grand le passage à l'extrême droite? De quelle gauche parle-t-on encore devant tant d'impossibilité de se rassembler d'un seul côté de l'échiquier politique? Qu'est-ce qui pourrait sauver la gauche? C'est notre sujet du jour. 3 invités pour en parler ce soir. Alain Bergougnou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, président de l'Ours, l'Office universitaire de recherche socialiste, membre du Conseil national du PS, directeur également de la revue Socialiste. À côté de vous, Roger Martelly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien du communisme, ancien membre du PCF, co-directeur de la revue, de la rédaction du magazine Regard, et vous avez publié tout dernièrement L'identité, c'est la guerre aux éditions Des liens qui libèrent. En face de vous, Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur de théorie politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors, une première question déjà très générale. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui appeler la gauche? Ça pose la question du doute sur ce qu'est la gauche après 4 ans, ces 4 ans et demi de gouvernement socialiste. Frédéric Lordon, l'économiste, dans l'un de ses articles, écrit « Il y a de quoi s'étonner que gauche soit implicitement rabattue sur Parti Socialiste, parti dont il est maintenant solidement avéré qu'il n'a plus rien que de droite. » Alain Bergougnou, sur cette question, qu'est-ce que 4 ans et demi de présidence socialiste a fait à la gauche?
D'abord, pour répondre à Frédéric Lordon, je rappellerai une phrase d'un leader travailliste de l'entre-deux-guerres à qui on demandait « qu'est-ce que c'est que le travaillisme ?» Il répondait « c'est ce que fait le parti travailliste ». Une réponse assez simple, évidemment un peu limitée, mais pas fausse quand même. C'est-à-dire que dans l'histoire, si on reste sur les partis socialistes, mais on pourrait prendre les autres aussi, il y a des contextes différents, des politiques différentes ont été pratiquées. Et pour reprendre le titre de votre émission, « Qu'est-ce qui peut sauver la gauche ?», elle a été en péril en France plusieurs reprises. En 1940, c'était pas terrible. 1958, non plus. Donc, et après, la gauche a changé, elle a évolué. Donc, il faut prendre les choses en perspective. La réalité aujourd'hui, et je pense que ça fait partie du cœur de notre débat, c'est que si on regarde évidemment la France, mais dans le contexte européen, on voit que toutes les gauches, hein, quelle que soit leur nature, connaissent quand même des difficultés. Mmh. Et particulièrement les gauches de gouvernement. Donc le Parti Socialiste fait partie de ces gauches de gouvernement. Pour des raisons qui sont sur lesquelles il faudra revenir, qui sont des raisons à la fois économiques, faire face à la mondialisation, à la révolution technologique, mais pas simplement. Des raisons culturelles, le problème des migrations, le problème de la division culturelle de nos sociétés, tout ça c'est difficile pour les gauches, c'est difficile. Et donc à partir de ce moment-là, pour répondre alors de là directement à votre question, sont, à mon sens, évidemment, à gros traits, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler des idéotypes. Effectivement, les choses dans la réalité ne sont jamais si simples. Mais il y a trois types de gauche aujourd'hui, en France comme en Europe. Hein. Il y a une gauche qui est un peu, qu'on pourrait appeler, pour aller vite, on y reviendra, social-libérale, s'adapter à la mondialisation, pratiquer des réformes du marché du travail, de l'État-providence, etc. Il y a une gauche qui est un peu traditionnel, hein, social-démocrate traditionnel. Et dans les propositions qui sont faites, c'est souvent des propositions qu'on voyait dans les années 70-80. Et puis, il y a une gauche de protestation, il y a une gauche de mouvement, qui n'est pas dans la perspective, en réalité, d'exercer le pouvoir. Et le Parti Socialiste, dans le fond, il est pris dans ces difficultés-là, mais il n'est pas le seul. Quand vous regardez la situation du Parti Travailliste ou du Parti Espagnol, vous voyez que vous avez les mêmes problèmes. Donc je crois que ça aide un peu de placer ça à la fois en perspective et dans un contexte. Mais on verra après, à mon sens, on peut définir quand même une gauche aujourd'hui.
Vous disiez d'ailleurs, Alain Bergougnou, dans un des articles dans lesquels vous aviez été interviewé, c'était dans L'Opinion, je crois, il y a quelques mois, que le pouvoir socialiste portait, le parti socialiste, portait en lui une volonté de transformation qui se cognait souvent à l'exercice du pouvoir. J'aimerais entendre Laurent Bouvet sur cette question.
Oui, la grande particularité du Parti Socialiste, comme des autres partis sociodémocrates ou travaillistes, comme on les appelle dans les différents pays européens, c'est d'accepter, dans le cadre de la démocratie, de l'état de droit, etc., démocratie, régime des libertés, hein, au sens large, pas seulement le droit de vote, hein, d'accepter d'exercer le pouvoir, en alternance avec des partis conservateurs, libéraux. Cette spécificité conduit à un certain nombre de contraintes. Elle conduit à des contraintes dans le cadre de l'exercice même du pouvoir, parce que le parti qui a été porté au pouvoir par une majorité, qui peut être parfois une majorité relative, hein, on sait que selon les différents systèmes évidemment électoraux, ça peut conduire à... On peut être majoritaire avec 30% des voix, on peut... cette majorité doit gouverner un pays qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle propose. Et donc, par exemple, dans le débat qu'on a eu encore récemment sur la loi travail, par exemple, sur le Parti Socialiste au pouvoir, n'est pas assez à gauche. Il ne fait pas une politique de gauche, il n'est pas assez à gauche. Que porte toute une partie de ce que Alain Bergougnou appelait justement à l'instant la gauche protestataire, critique. Il faut bien voir que c'est évidemment contraire à ce que pense toute une partie de l'opinion qui ne vote pas pour la gauche aux élections. Hein, donc, un parti qui accepte le pouvoir de manière très, je dis ça de manière très générale, très neutre, on peut être d'accord ou pas après, ça c'est autre chose, mais est contraint par l'exercice d'un pouvoir qui s'applique, on exerce le pouvoir en France, pour l'ensemble de la France, pour l'ensemble des Français, pas uniquement pour ceux qui nous ont élus, et si même à l'intérieur de ceux qui nous ont élus, ceux qui sont vraiment entièrement d'accord complètement avec tel ou tel programme, etc. Après, la question, c'est de savoir le décalage dans l'exercice du pouvoir qui est accepté et acceptable par rapport au projet qu'on a proposé au pays. Est-ce qu'on a dit ce qu'on ferait précisément ? Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit qu'on ferait, on fait un petit peu, pas beaucoup, moins, etc. Et est-ce qu'on fait des choses qu'on a dit alors qu'on n'a pas dit qu'on les ferait ou qu'on a dit qu'on ferait le contraire ? Et là, on rentre effectivement dans l'espace de la critique. Tout à fait légitime, qui peut être adressée à tout pouvoir, notamment un pouvoir de gauche.
Roger Martelly, sur cette question du décalage, est-ce que le décalage entre ce que le Parti Socialiste avait proposé en campagne et ces 4 ans et demi de présidence qui viennent de s'écouler redéfinit la gauche socialiste aujourd'hui ?
Je pense que c'est une sacrée situation que je juge pour ma part très, très, très dangereuse. Très dangereuse parce que la vie politique en France sur plus de 2 siècles est structurée par le face-à-face de la gauche et de la droite. Et au cœur du conflit de la gauche et de la droite se trouve la question de l'égalité. Historiquement, ce qui caractérise la gauche, c'est l'ancrage, j'allais dire, dans les 3 valeurs fondamentales de l'égalité, de la citoyenneté, de la solidarité. Or, nous constatons aujourd'hui que la partie dominante de la gauche, en tout cas la partie qui domine la gauche depuis la fin des années 70, la gauche socialiste, au pouvoir, s'est engagé dans une politique qui accepte, qui intériorise la logique de ce qu'on appelle l'état de guerre, qui s'enfonce dans ce qu'on appelle l'état d'urgence, hein, qui est tenté bien souvent, bien trop souvent, me semble-t-il, par exemple, un traitement plutôt policier de la question de l'immigration, qui s'est engagé dans un démantèlement d'une législation sociale qu'avait inauguré le Front populaire, et qui, par exemple, encore tout récemment, entérine le licenciement de salariés en lutte dans Air France. Quand cette partie de la gauche dominante s'engage dans cette politique, comment peut-on s'étonner que, pour dire les choses rapidement, la gauche d'en bas ne se reconnaisse pas dans la gauche d'en haut ? Comment s'étonner que la définition ou la perception de la gauche et de la droite s'estompe ? Les frontières, on ne sait plus où elles se trouvent. Et à partir de là, il y a un dérèglement des comportements politiques.
C'est inédit ?
C'est avec cette ampleur, je dirais, oui, c'est inédit. Et donc, mais ça ouvre peut-être sur ce qui sera la suite de notre discussion. D'une certaine manière, sauver la gauche, c'est tout simplement faire en sorte que la gauche, au fond, redevienne elle-même. C'est-à-dire qu'elle retrouve ses valeurs fondamentales, ce qui me conduit à penser, très sincèrement, sans jouer sur les mots, sans faire de grandes déclarations sur le Parti Socialiste n'est plus à gauche, etc., je tends à penser que la gauche aujourd'hui, si elle veut être fidèle à elle-même, ne peut être une gauche de rupture avec les logiques dominantes à la fois économiques, sociales, politiques et culturelles, soit d'être une logique de rupture, non pas une gauche protestataire, comme le disait Alain Bergogneau, mais une gauche d'alternative.
Alors vous avez posé les jalons de ce qui va être la suite de notre débat, Roger Martelly, à savoir la question de l'égalité qui va nous donc prolonger vers une question de la question de l'identité dans ces dernières années d'exercice du pouvoir par la gauche. Mais avant cela, je voudrais entendre Alain Bergogneau qui voulait réagir à votre propos.
Oui, enfin, c'est une discussion, hein, c'est pas une réaction. Mais quand même, moi, ce qui me frappe dans cet échange, et puis surtout dans les débats, c'est quand même l'absence de diagnostic. C'est-à-dire, dans quelle situation on est, quels sont les défis, quelles sont les évolutions économiques, qu'est-ce qu'on peut redistribuer, quelle est la tolérance fiscale, etc. Ça, personne n'en parle. Et pour pas être critique vis-à-vis de Roger Martelly, parce que un vieux débat depuis très longtemps, depuis l'école. Donc comme j'écoutais le discours d'Arnaud Montebourg, je le lisais plutôt. Bon, c'est, y a aucun diagnostic. C'est-à-dire que, or, il y a quand même deux faits majeurs qu'il faut avoir présents à l'esprit. C'est la France, et c'est aujourd'hui le pays européen où le taux des dépenses publiques est le plus élevé. La France a battu le Danemark. On l'utilise peut-être mal, mais quand même, on n'est pas du tout dans une situation de pays libéral. Le libéralisme, c'est autre chose, le néolibéralisme. Deuxièmement, contrairement à... Alors après, on peut discuter de telle mesure, mais moi, je constate sur ces 4 ans qu'en fait, que la protection sociale a plutôt progressé. Il y a eu les mesures sur les retraites de longue carrière, il y a eu le tiers payant, le complémentaire retraite, le compte pénibilité, etc. Donc en fait, il n'y a pas, c'est pas une subversion, c'est pas une trahison d'ensemble. Donc après, on peut discuter effectivement, parce que même le président le reconnaît, il y a eu des erreurs qui ont été faites.
Il dit qu'il n'a pas eu de bol.
Oui, mais ça c'est genre,
sur la question du chômage.
Moi, président, je ne me serais pas exprimé comme ça. Donc, parce que c'est pas une question de bol, c'est une question de politique et d'adéquation. Après, il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a une lutte contre les inégalités qui n'ont pas été assez fortes. Mais je prends, et je termine par là, pour pas monopoliser la parole, mais je prends qu'un seul exemple. Quand la gauche socialiste, et d'ailleurs la gauche n'est pas unie sur ce qu'ils font là-dessus, essaye quand même de donner priorité budgétaire, et c'est le cas à l'éducation, et tente une réforme, alors après on peut la critiquer, mais sur la réforme des collèges par exemple, pour essayer d'aller vers plus d'égalité, qui la soutient ? personne. Les enseignants, pour des raisons qu'on pourrait analyser longuement, ne la soutiennent pas. Toute la droite, comme le disait Laurent Bouvet, il y a toute une partie du pays qui ne la comprend pas et qui la refuse. Donc, or, c'est quand même une tentative d'aller vers plus d'égalité. Donc, moi, je n'accepte pas le procès en néolibéralisme qui est fait par toute une partie de la gauche, mais qui ne veut pas discuter des choses dans l'ensemble de ce qui a été fait.
Laurent Bouvet, aujourd'hui, il y a une absence de diagnostic ?
Oui, alors, enfin, il y a des diagnostics qui sont faits différemment, c'est surtout ça, parce qu'il y a des diagnostics. Alors, dans le discours de Arnaud Montebourg que j'ai lu aussi, effectivement, il n'y a pas d'une partie de diagnostic, mais enfin, il fait un constat, disons. Mais il y a des diagnostics différents, ce qui vient d'être dit par Alain Bergougnoux, ce qui a été dit précédemment par Roger Martelly, ce sont deux diagnostics différents de ce qu'est le monde aujourd'hui. La mondialisation, les questions de la place renouvelée des religions, en particulier de l'islam, qui a une partie qui s'est radicalisée, fondamentalisée, et qui pose un certain nombre de problèmes. D'abord dans les pays musulmans, hein, et puis ça déborde aujourd'hui vers d'autres pays, dans d'autres populations. Donc il y a des questions qui se posent, les questions climatiques, bon, on ne va pas faire un catalogue, hein, tout le monde les connaît, ou du moins on entend largement parler, heureusement d'ailleurs, il y a quand même un débat public, heureusement. Non, ce qui est frappant, ce que je voulais juste ajouter suite à ce que disait Roger Martelly tout à l'heure, c'est il y a un moment donné, la gauche, si vous voulez, la définition de la gauche n'est pas l'apanage d'une partie de cette gauche. C'est-à-dire que si la gauche se définit uniquement par une partie qui est une partie minoritaire de la gauche, sa partie la plus à gauche pour simplifier, qui n'arrive jamais à obtenir le pouvoir de pouvoir changer dans le sens qu'elle entend donner aux politiques publiques telles que ça vient de nous être énoncé autour de l'égalité, etc., comme ça vient d'être dit, si elle ne peut pas conquérir le pouvoir ou le prendre, puisque on pourrait dire que c'est une gauche révolutionnaire, pourquoi pas faire la révolution ou prendre le pouvoir par les unes, peu importe, mais en tout cas par un autre moyen ou par la rue, les manifestations ou que sais-je encore, nuit debout, enfin on peut imaginer toute forme d'exercice du politique, de répertoire de l'action politique, comme on dit. Si elle n'arrive jamais à, dans le rapport de force par rapport à l'autre gauche qui gouverne, qui accepte de gouverner, de scolter aux réalités, etc., avec laquelle on peut être plus ou moins en accord, et j'aurais bien des débats sur la réforme des collèges avec Alain Bergougnoux, avec laquelle
dans
je suis absolument pas en accord, mais enfin c'est une autre question, mais si elle n'arrive jamais à prendre le pas dans le rapport de force, eh bien, elle ne peut pas définir la gauche. Elle ne définit que ce qui est pour elle la gauche avec... disons son pourcentage d'électeurs, sa visibilité dans l'espace public, sa capacité d'expression. Et voilà, on est dans un rapport de force. Tout ça, c'est pas la définition de la gauche, ça nous vient pas comme une transcendance devant laquelle nous serions une vérité avec un grand V, tous en extase. C'est pas une religion, la gauche. C'est une définition dans un rapport de force, dans une construction. Alors, évidemment, on peut argumenter des choses théoriques. La gauche, au début des années 1820-1830, c'était des libéraux qui se situaient à gauche de l'Assemblée. Il y a eu ensuite le marxisme, on est passé à la société. C'est des choses bien différentes, donc il faut faire très attention à cela. Moi, je suis toujours un petit peu embêté quand on dit la gauche, c'est ça, et vous n'êtes pas de gauche. Les brevets, le bureau des brevets est ouvert, mais qui est derrière le bureau des brevets ? C'est ça qu'il faut poser comme question.
Mais alors, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour l'autre gauche, celle qui n'est pas au gouvernement, le parti communiste, le parti de gauche, à se ranger derrière une définition plus homogène de la gauche, Roger Martelly ?
Écoutez, puisque nous parlons de diagnostic, parlons de diagnostic. Hein. Je crois que Alain Bergougnoux avait raison de le mettre en garde contre une réflexion qui serait une réflexion, j'allais presque dire, centrée peut-être uniquement sur un cas qui est le cas français. Mm-hmm. Nous vivons dans un monde instable et dans des sociétés qui, globalement, j'allais dire, et pas seulement en France, sont désorientées, sont déstructurées ou sont en voie de déstructuration. Pour moi, ce qui est la cause de cette situation, c'est le fait que nous sommes depuis plusieurs décennies dominés par trois paradigmes. Le premier paradigme en économie, c'est celui du libéralisme, qui met au cœur, j'allais dire, des finalités, des objectifs, la double notion de concurrence et de compétitivité. Or, la concurrence et la compétitivité, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des inégalités, ça crée de la pauvreté, ça crée de la précarité, et sur cette base-là, du ressentiment et, évidemment, des risques d'explosion sociale. Le second paradigme, sur le plan politique, c'est celui de la gouvernance. C'est-à-dire, on ne parle plus de souveraineté populaire, on parle de gouvernance. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir de ceux qui savent, des compétents, de la technocratie. Mais ça, ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que les catégories populaires se sentent de plus en plus à l'écart de la politique. Cela conduit vers l'abstention, cela conduit à un moment donné vers la recherche de, par exemple, donner des coups de pied dans la fourmilière, par exemple, par des votes d'extrême droite. Et le troisième paradigme, c'est le paradigme de l'identité. On nous dit, nous ne sommes plus dans des sociétés dans lesquelles la question sociale est au cœur, ce qui est au cœur, c'est la question de l'identité. Or, moi, je crois que la question de l'identité divise, oppose, crée de la violence. Donc, si l'on veut, à un moment donné, sur la base de ce diagnostic, être efficace du point de vue des valeurs de la gauche, ben, il faut se mettre en position de rupture avec ces trois paradigmes. Non pas les accepter, non pas intérioriser les contraintes, mais les contredire, et les contredire à toutes les échelles de territoire, du local jusqu'au planétaire. C'est pour ça que je dis que la gauche ne peut pas aujourd'hui se penser véritablement si elle n'a pas cette ambition de rupture et de reconstruction, bien entendu.
Alors justement, on va saisir cette question de l'identité que vous brandissez, Roger Martelly, depuis le début de ce débat. D'ailleurs, il y a eu depuis le début de la présidence de François Hollande les attentats qui ont bouleversé ou peut-être renforcé, vous allez nous dire, à gauche, la vision d'envisager la question sécuritaire, la vision identitaire aussi de la politique menée par le gouvernement. Il y a eu ces récentes déclarations du Premier ministre Manuel Valls dans la Provence mercredi dernier, où il est tout de même amené à cautionner, à soutenir des maires de droite sur la question de l'interdiction du port du burkini à la plage. Je voudrais revenir sur les propos de l'historienne, sur les écrits de l'historienne Marion Fontaine, qui évoque cette possibilité pour la gauche de s'accorder sur le plan purement politique et économique. Mais il y a un point, dit-elle, où il est plus difficile de se mettre d'accord, c'est la question justement de l'islam, et où la gauche est capable de dire tout et son contraire, prenant une intégration républicaine ou à l'inverse, dénonçant une islamophobie. Sur cette question, Laurent Bouvet, est-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois dans la parole publique, dans la parole politique, nous empêche d'unir, de concevoir la gauche sous le prisme de l'union, de la possibilité d'une union?
Alors, je trouve cette historienne un peu optimiste sur le plan économique. Car ça a été dit par Roger Martelly tout à l'heure, la question sociale, elle, est prioritaire parce que la question identitaire divise. La question sociale divise aussi. Et elle divise aussi la gauche. On le voit depuis maintenant des années, même au-delà du quinquennat de François Hollande. Ça, on a l'impression que c'est...
Est-ce que la question identitaire ne rend pas les choses irrémédiables?
Elle s'est durcie ces dernières années. Hein, c'est un mouvement de moyen terme. Hein. On peut dire que, effectivement, depuis le début des années 2000, il y a un durcissement des questions d'identité du fait de la radicalisation d'une partie de l'islam, du durcissement même d'une partie de l'islam par rapport à la définition de ce qu'est l'islam, puisque les islamistes veulent imposer à l'ensemble des musulmans un modèle d'interprétation de l'islam qui serait un modèle plutôt intégriste. Alors, dans les détails, le salafisme, ça peut être aussi une partie de l'idéologie des frères musulmans, etc. Bon, mais en tout cas, c'est une guerre au sein de l'islam. Hein, on parle il y a ceux qui disent qu'il y a un choc de civilisation entre l'Occident et l'islam. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de choc de civilisation entre l'Occident et l'islam. Il y a un choc entre la civilisation et l'islamisme. Et la civilisation, ça comprend très largement l'immense majorité des musulmans qui ne veulent pas de l'islamisme. C'est les premières victimes de l'islamisme.
On est d'accord. Donc, là-dessus, la vision politique, là-dessus, c'est clair. La réponse politique.
Non, par rapport à la gauche, cette question de la définition de l'identité qui ne se résume pas à l'islam, il faudrait faire très attention à cela, mais qui la comprend, évidemment, il ne faut pas l'ignorer et la mettre sous le tapis, comme on essaye parfois de le faire en criant à l'islamophobie dès qu'on parle de cela. Vient se superposer difficilement avec la question sociale. Et je vais donner très rapidement, pour pas être trop long, trois éléments qui montrent que la question identitaire, et je dis bien identitaire et pas simplement de l'identité, vient aujourd'hui pousser, non pas éliminer la question sociale, ce serait idiot et aberrant de dire cela. La question sociale continue, la question de l'égalité sociale continue de se poser. Mais elle vient s'articuler de manière très compliquée avec elle et donner plus de poids à ces questions identitaires. Pour trois raisons, au moins. La première, c'est le changement de contexte général géopolitique international. à l'étranger, à l'extérieur de nos frontières, et dans notre pays depuis l'année dernière, avec des attentats terroristes, avec le durcissement d'un certain nombre de réactions. Bon, tout le monde le sait. Deuxième élément très important, la défiance du politique vis-à-vis des solutions économiques et sociales, qui touchent l'ensemble du politique. Or, cette défiance fait que la question sociale et l'action possible des politiques sur l'économie et le social est de moins en moins vue, ça c'est aussi un des traits essentiels du populisme, des élites, comme pouvant faire quelque chose ou voulant faire quelque chose. Parce qu'ils seraient corrompus par la mondialisation, parce qu'ils seraient contraints par l'Europe, ou parce qu'ils ne voudraient pas, ou parce qu'ils ne pourraient pas. En tout cas, ils ne peuvent plus agir sur l'économie. Donc, peu importe ce qu'ils nous racontent sur l'économie. Donc ça fait monter par vaste communicant la question identitaire. Et troisième élément, le poids considérable pris ces dernières années par les partis populistes et d'extrême droite. Mmh. Quand vous avez un Front National entre 25 et 30% de l'électorat et dans les intentions de vote d'un pays, c'est pas le même débat que quand il a 5, 10. Donc, pour toutes ces raisons, même si on peut le regretter, les questions identitaires, les questions de définition, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que le commun français, etc., sont au cœur du débat. Vouloir les refuser en disant « Ah, mais la gauche, c'est la question sociale, on ne doit surtout pas s'occuper de ça », c'est faire le jeu, précisément, de ceux qui poussent en avant, Nicolas Sarkozy dans son précédent quinquennat, l'extrême droite, la question identitaire dans leur sens, dans le sens de l'identitarisation. Et ça, c'est la gauche, c'est au travail de le travail de la gauche, c'est de refuser cette poussée en disant nous avons une conception de notre identité commune à proposer, qui est une identité non ethnique, mais une identité civique, citoyenne, de souveraineté, qui est une identité démocratique, qui est une identité du pluralisme, qui est une identité de la laïcité, etc.
Le fait est que la gauche s'empare de ce débat, mais pas de la manière dont vous le dites. Alain Bergouin,
oui,
sur la question.
Bon, je poursuis à la suite de ce que disait Laurent Bouvet, mais peut-être en conclusion, j'aimerais revenir sur les trois déstructurations de Roger Martelly, mais pour pas embrouiller la discussion, je poursuis dans le. Je crois que bon, c'est un des problèmes de fond de la société française, mais pas la seule. Hein. On voit que c'est pareil dans le monde entier. C'est très difficile pour une société d'accepter une forte diversité. Alors, il y a une sorte de tabou sur le mot multiculturel. Hein. Beaucoup hésitent à l'employer, mais c'est la réalité. Nous sommes dans des sociétés multiculturelles. Alors après, ça dépend ce qu'on fait à partir de là. Et puis, je dirais, c'est ça la difficulté. Ça ne va pas s'arranger. Parce qu'on est dans des flux. La mondialisation, c'est pas simplement l'économie. C'est pas simplement les produits. C'est aussi les hommes. Et on le voit avec la question des migrations. Donc, c'est une difficulté majeure pour les démocraties et particulièrement pour les gauches. Et ce que l'on voit, et c'est ça qui est un point important, c'est qu'en fait la question ne commence pas d'aujourd'hui. Ça s'est porté sur l'immigration. Et le Front National a fait son succès à partir des années 80 sur l'immigration, avec des connotations xénophobes et racistes tout à fait claires. Et puis avec la dite prétendue dédiabolisation, on est passé au culturel. C'est-à-dire, c'est le problème, c'est la culture, c'est la religion, la France fout le camp, le titre de Zemmour, et tout ça, tout un climat, et en plus fait de pessimisme, qu'on connaît en France, qu'on a connu autrefois. Or, ça, c'est une question qui peut polariser le débat, parce que le Front National attire une partie de la droite là-dessus, et donc le problème, nous ne sommes plus chez nous, parce qu'il faut traduire ça pas simplement en termes abstraits, donc il faut revenir à ce qu'est la France, d'où les racines chrétiennes, etc. Or, ça, c'est un problème majeur, parce que il faut à la fois, et je termine là-dessus, il faut à la fois, et ça peut rassembler la gauche, quelles que soient les diversités et même les détestations réciproques. Je ne parle pas avec Roger Mestilly, parce qu'on ne se déteste pas, mais les détestations réciproques, parce que il faut défendre une conception de la nation qui soit une conception construite, ouverte et changeante. Mais et en même temps, le problème de fond, c'est celui qu'a posé Laurent Bouvet, je le rejoins là-dessus. Après, là, c'est une question de curseur. Il faut savoir qu'est-ce qui doit être commun dans cette diversité.
Justement,
d'où le débat sur la laïcité, qui est extrêmement important.
J'aimerais entendre Roger Martelly sur cette question.
Il faut éviter les dévoiements de la laïcité.
Roger Martelly, c'est aussi ce que vous expliquez dans votre livre « L'identité, c'est la guerre », que l'extrême droite, enfin ce « on est chez nous » dont parlait Alain Bergougnoux, l'extrême droite l'a imposé dans le débat public, a imposé cette question de l'identité comme ce qui structure nos sociétés à la place l'inverse du concept d'égalité. Est-ce que c'est aujourd'hui le principal danger qui guette la gauche?
Écoutez, moi, je ne nie pas la prégnance de la question identitaire dans le débat public français, dans les représentations courantes en France, mais je dis que l'identité est un piège. Voilà, je dis que c'est un piège meurtrier pour la gauche. Pour quelle raison? Mais parce que l'identité, la prégnance d'une identité, ça n'est pas né comme ça. C'est le résultat à la fois d'une évolution sociale et de construction idéologique. La dominante de l'identité, elle est venue pour moi à la jonction de deux courants d'idées. Le premier, qui naît, j'allais dire, au début des années 90, après la guerre froide, qui explique le désordre du monde par la guerre des civilisations. Avec dans l'idée, c'est la théorie évidemment du célèbre Samuel Huntington, enfin c'est pas lui qui a inventé cette idée, mais il l'a reprise et il l'a popularisée, c'est l'idée qu'au cœur des civilisations, il y a la question religieuse. Et que ce qui aujourd'hui est la source d'instabilité, c'est cette question religieuse, et notamment celle qui oppose l'Occident et l'Islam. Et puis un deuxième courant qui se greffe sur ça, qui est plus ancien en France, qui remonte à la fin des années 60, début des années 70 avec la nouvelle droite, qui dit désormais, dans nos sociétés qui sont des sociétés développées, relativement riches, l'égalité est seconde, ce qui compte, c'est les problèmes d'identité, qui sommes-nous? Nous ne sommes plus chez nous. Or, si nous sommes sur ce terrain, nous ne sommes plus chez nous, nous divisons le peuple. Parce qu'à un moment donné, quand on ne sait pas quelle est la cause des maux, quelle est la racine des maux, on va chercher peut-être le bouc émissaire. Celui qui est le plus près, c'est le fonctionnaire contre celui qui n'est pas fonctionnaire. C'est le français de souche contre celui qui est l'étranger. Eh bien, si on en est là, on divise le peuple. Or, moi, je crois que l'enjeu fondamental, c'est de rassembler les catégories populaires dans un projet d'émancipation. Pour ça, il ne faut pas accepter la logique dominante de l'identité. Il faut réhabiliter l'égalité et la compléter, évidemment, avec les exigences de citoyenneté et de solidarité.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Roger Martelli dit que la musique c'est pour le calmer apparemment. Non mais en fait on est en train de poser cette question à laquelle on n'aura pas le temps de répondre en 45 minutes, c'est déjà évident. Qu'est-ce qui pourrait sauver la gauche avec les historiens Alain Bergugno et Roger Martelli et le politologue Laurent Bouvet? Il y a quelque chose, il y a un point qui interpelle dans les déclarations des représentants politiques du gouvernement ces derniers mois, ces dernières années. Manuel Valls, dans un entretien accordé à l'Obs, qui disait que nous aurions dû faire un constat plus clair sur la situation de la France dès 2012, sur sa triple crise de croissance, de la dette et de confiance. Il y a aussi cette déclaration de Jean-Christophe Cambadélis, dans son livre paru l'année dernière, qui dit à gauche, dans son livre À gauche, les valeurs décident de tout, qui écrit « Nous avons été pris à la gorge par la convergence des handicaps français », comme si ces représentants politiques de gauche ne savaient pas ce qui les attendait en 2012, en arrivant au pouvoir. Alors, au-delà de cette rhétorique catastrophiste, comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui cette absence de vision assumé dans la parole politique, Laurent Bouvet?
C'est une rhétorique de l'amateurisme, surtout. Enfin, c'est quand même assez terrifiant, hein, pour dire les choses. Mais on ne va pas commenter les écrits de Jean-Christophe Cambadélis. Non, ce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a quand même un élément historique, ça a été évoqué, hein, plus tôt. C'est assez classique, mais la chute du mur de Berlin, la fin du communisme comme système alternatif, même s'il était déjà bien ébréché, avant, à la fin des années 80, a laissé quand même une forme de vide. C'est-à-dire que, pour simplifier la social-démocratie, la gauche de gouvernement qui accepte de sculpter la réalité dans le système démocratique, qui a très largement réalisé son programme. Parce qu'on n'a pas dit aussi qu'une de ses difficultés, c'était qu'historiquement, elle a réalisé une grande partie de son programme. L'État-providence, le contrôle, la régulation de l'économie, même si il y a un contrebalancier depuis les années 80 avec le néolibéralisme et la dérégulation. Il y a quand même un débat. Alain Bergugno faisait allusion tout à l'heure. On est quand même dans des systèmes où il y a encore une grande partie de la dépense qui est mutualisée, socialisée. Il y a quand même des évolutions historiques très fortes. Et puis, il y a des évolutions aussi sur la manière dont, face à ces grands mouvements historiques, le personnel politique, la sélection des élites dans les partis, on parle de Jean-Christophe Cambadélis, des responsables, etc., ne se fait plus peut-être sur les mêmes critères et les mêmes événements, les mêmes éléments, pardon. Donc il y a aussi peut-être un appauvrissement du débat intellectuel à l'intérieur des partis politiques, de ce qui faisait les partis, de ce qui faisait au-delà des partis les mouvements politiques, qui aujourd'hui est quand même assez sensible. Donc si on revient à votre question directement sur 2012, la préparation, etc. S'il n'y a pas eu véritablement de préparation à reconquérir, à revenir au pouvoir.
Et cette reconnaissance de l'impréparation.
Simplement en dehors de un catalogue, d'un certain nombre de mesures à mettre en place dans le cadre prévisionnel. Alors en plus, on dit on va renégocier le traité européen, on le fait pas, etc. Pour moi, c'est là le point nodal de départ pour François Hollande qui, au mois de juin 2012, ne renégocie pas avec Angela Merkel quoi que ce soit du traité alors qu'il avait dit qu'il le ferait. Bon, donc là, il y a un blocage tout de suite. Bon, on est dans la contrainte. Mais avant cela, il n'y a pas eu de travail idéologique. Il n'y a pas eu le dernier. Et c'est pas Alain Bergugno qui, lui, essaye de faire ce travail idéologique de longue date au PS. Il faut bien reconnaître qu'il est un des rares. Il n'est pas toujours écouté. Le dernier grand texte d'approfondissement idéologique avec lequel on peut discuter, mais ça a été en 1991, qu'on a appelé le texte issu du projet Un horizon socialiste. Alain Bergugno connaît bien, du projet de l'Arche. Du congrès de l'Arche, un an après le fameux et funeste congrès de Rennes. Et depuis, il y a eu des ajustements, de la déclaration de principe, etc., mais des choses qui n'ont pas percé au-delà des instances socialistes, qui n'ont pas provoqué de débat. Donc, on est dans quelque chose de très, très, très long comme ça, qui est une force d'inertie, et il n'y a plus de pensée véritable. Mais c'est la même chose au Parti communiste. Ça, c'est la même chose dans l'ensemble de la gauche, chez les Verts. Il y a rien. On voit bien aujourd'hui que le délitement est quand même général.
Alain Bergugno, oui. Il y a une absence de débat. Est-ce que la gauche souffre d'une absence de débat idéologique aujourd'hui?
Une remarque et puis la réponse à votre question quand même, parce que c'est intéressant. Parce que Laurent Bouvet dit, dans le fond, le péché originel de François Hollande, c'est ne pas avoir renégocié le traité européen, ne pas avoir tapé du poing sur la table. C'est ce que disent beaucoup de gens, hein, ce que disait encore Arnaud Montebourg dimanche dans sa campagne. Et ce qu'il a fait, mais c'est là qu'on voit évidemment les difficultés, c'est qu'il n'a pas voulu, alors qu'il y avait peu d'alliés pour ça, hein, même les autres partis sociaux-démocrates n'étaient pas d'accord, donc il aurait fallu ouvrir une crise en Europe, il pensait qu'il n'avait pas le rapport de force, et ce qu'il a obtenu en fait, c'est la tolérance pour dépasser les fameux 3% qu'on n'a jamais atteint. Et quand on parle de politique d'austérité, c'est assez amusant, parce que, enfin, c'est pas amusant en soi, mais on est très loin de l'austérité. Alors, toute la démarche de Hollande, c'est son problème. Mais en même temps, il faudrait avoir un peu de justice avec lui. Ça a été, comme on ne peut pas contraindre les événements et qu'il y a les rapports de force, ça a été de jouer avec les rapports de force et obtenir cette tolérance budgétaire. C'est des choses qu'il faudrait débattre précisément. Mais pour répondre à votre question, il faut voir que la gauche française, alors ça c'est vrai depuis, comme dirait Laurent Bouvet, les années 1820, est profondément divisée. Elle l'a toujours été. Et au temps de la guerre froide, tant communiste et socialiste, t'es quand même aussi dur qu'aujourd'hui, même plus dur.
Mais ça va au-delà de la division,
oui,
c'est même
oui,
plus la
alors, définir. Oui, mais la conséquence de ça, c'est-à-dire que les socialistes et François Mitterrand, à la fois avec son habileté et puis avec évidemment les conséquences de cette habileté, a toujours refusé l'éclaircissement idéologique. Et Michel Rocard vient de mourir récemment, et c'est tout le débat qu'il y a eu au sein du Parti Socialiste, entre les Mendésiens, les Rocardiens, et puis les Mitterrandistes. Et François Mitterrand considérait que la gauche était tellement divisée qu'il fallait maintenir l'ambiguïté. Cette fameuse formule, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment.
Vous dites qu'elle peut en mourir,
oui,
de
oui,
cette
ambiguïté. Oui, mais justement, or, il y a un moment où, et c'est pour ça que mais on n'aura peut-être pas le temps, mais vous nous réinviterez. Il y a un moment où il faut parler de ces trois déstructurations. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur le libéralisme, il faut être clair sur la gouvernance, il faut être clair sur l'identité. Or, dans le fond, c'est ça la faiblesse du PS, malgré certains qui ont essayé, Laurent, quand il y était, a aussi contribué, et toujours refusé ce débat d'éclaircissement, parce que son prix, c'est l'approfondissement de la division. Or, il y a un moment, quand les conditions changent, quand elles deviennent beaucoup plus difficiles, l'ambiguïté n'est plus une habileté.
Alors, vous parliez de cette absence d'éclaircissement, de volonté d'éclaircissement. Vous, Roger Martelly, vous dites dans une tribune que vous avez publiée dans L'Humanité que la gauche en général et la gauche de transformation en particulier n'ont d'avenir que si elles sont pensées en même temps dans la continuité de valeurs et le renouvellement d'un cadre politique. Donc, le débat ne suffit pas. Il faut
bien sûr, mais une action. Repartons de cette idée que le gouvernement actuel s'est trouvé surpris par la dette, enfin, etc. C'est une,
je considère que c'est une plaisanterie.
Les effets destructeurs de la mondialisation libérale, on les connaît depuis longtemps. On sait depuis longtemps que l'Union européenne est en panne et que la crise politique s'est incrustée dans le paysage français, comme d'ailleurs dans, malheureusement, le paysage européen en général. Donc, c'est un peu léger de dire « nous ne savions pas ». Oui, on savait. Mais c'est donc depuis longtemps, il fallait prendre le parti d'engager les Français dans un effort qui est un effort de long souffle, un effort continu, mais un effort avec une énorme ambition qui doit être de remettre la société sur sa tête. Ça signifie à un moment donné, si l'on veut remettre la société sur sa tête, ça signifie qu'il faut redonner ses vertus à l'espace public, qu'il faut revaloriser la notion de bien commun par rapport à l'appropriation privée. Ça signifie que sur le plan politique, il faut rompre avec la gouvernance, il faut relancer la démocratie, mais relancer la démocratie, ça signifie aller vers une démocratie d'implication et pas simplement de représentation. Et enfin, il faut repenser les formes de l'individu du collectif, non plus les opposer comme on le faisait autrefois, mais les penser conjointement et les transformer conjointement. Et c'est en cela, je termine, moi, effectivement, je crois que la gauche, je disais au départ, elle sera sauvée si, d'une certaine manière, elle redevient ce qu'elle est, mais elle ne redeviendra que ce qu'elle est que si, à la fois, elle continue ses valeurs et qu'elle ait le courage de transformer les mots, les pratiques, les objectifs qui doivent être les siens aujourd'hui.
Je prolonge un petit peu dans ce que vous venez de dire, Roger Martelly. Est-ce que la gauche peut réexister en refusant à l'avenir d'être un parti de gouvernement ? Est-ce
non. que la gauche doit avoir le parti d'assumer, j'allais dire, l'historicité et d'assumer des responsabilités jusqu'aux responsabilités gouvernementales. Mais aujourd'hui, gouverner, ça n'est pas simplement prévoir. Gouverner, c'est avoir le courage, encore une fois, de rompre et de savoir que la rupture ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais qu'il faut avoir cette volonté de rupture. Si on n'a pas cette volonté de rupture, on est prisonnier et dans ce cas-là, la gauche est morte.
Laurent Bouvet, est-ce que la gauche peut se sauver par la rupture, dans la rupture ?
Oui, enfin, la gauche a toujours été dans la dans une dialectique, hein, pour parler le langage, langage de gauche bien connu, entre la rupture et la continuité, et la construction dans la continuité. La gauche qui a apporté au peuple des droits, des protections, qui a apporté des libertés et de l'égalité, c'est une gauche qui a assumé l'exercice du pouvoir avec tout ce que ça comporte de difficultés. Ce n'est pas une gauche qui s'est contentée de dire rupture avec le système sans venir au pouvoir en rompant en partie et en assumant en partie le système. C'est ça l'histoire fondamentale de la gauche. Il n'y a pas d'autre issue. Moi, ce que j'ajouterais simplement de mon point de vue, de mon angle à moi, il me paraît essentiel, notamment pour l'élection de l'an prochain, mais au-delà, parce que ce n'est qu'un commencement, cette élection, tout le monde la voit comme une fin, comme une espèce de ligne d'arrivée, mais en fait, tout commence après, comme d'habitude. Les ennuis commencent, comme disait l'autre. Il y a une difficulté. Il y a un point sur cette question de l'identité par rapport à la question de l'égalité sociale qu'il faut absolument, à laquelle ces identités, ces questions d'identité, la gauche doit se confronter.
Elle doit l'éclaircir.
Elle doit éclaircir sa position, comme elle doit éclaircir sa position sur le débat social. C'est un élément absolument essentiel pour qu'elle puisse à nouveau parler aux Français. Sinon, c'est la droite et l'extrême droite qui débattront de cela.
Merci beaucoup à vous trois. Désolé Alain Bergougnoux, vous vouliez rajouter quelque chose, mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Alain Bergougnoux, vous reviendrez, c'est ça. Alain Bergougnoux, Roger Martelly, Laurent Bouvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Des références bibliographiques, des liens pour prolonger le débat sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, tout comme cette émission que vous pourrez réécouter, podcaster et commenter sur ce même site. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblond, Philippine Lebray, Tanguy Omri, Jean-Christophe Francis à la réalisation, accompagné ce soir à la prise de son de Jacques Azubert.